Bonjour, je m'appelle Cecilia Puna et bienvenue à cet épisode de Brave New Women. Partout dans le monde, il y a les femmes ordinaires qui font les choses extraordinaires. Ce podcast leur donne une plateforme et une voix. Il nous inspire tous à faire les choses qu'on a toujours voulu faire et il aide à changer l'image des femmes. Aujourd'hui, je suis ravie de parler avec Aline Jallier. Aline Jallier a été chanteuse lyrique pendant 30 ans. Elle a récemment quitté cette profession très exigeante et aujourd'hui, elle anime des formations professionnelles en intra et elle coach les personnes qui souhaitent être plus à l'aise avec leur voix parlée et leur expression orale dans la prise de parole en public. Elle a un intérêt tout particulier pour les voix des femmes. Donc, bienvenue Aline.
Merci. Merci, Cécile.
Aline, parle-moi d'abord de ta carrière de chanteuse.
Ah, alors ma carrière de chanteuse, c'était une grande surprise, en fait. Je ne me destinais pas du tout à ça. Moi, je me destinais à être enseignante et notamment dans la littérature. C'est la littérature qui me passionnait. Donc, j'ai commencé par être professeure de français, professeure à l'université. Et puis, en même temps, je prenais des cours de chant. Et petit à petit, c'est avéré que j'avais une voix. Et cette voix m'a emmenée vers plus que ce que j'imaginais. Donc, elle m'a emmenée vers à la fois l'enseignement du chant et puis le métier, en quelque sorte, de chanteuse lyrique soliste. Alors, qu'est-ce que je pourrais te dire là-dessus? J'ai eu la grande chance de ne pas en avoir fait mon activité professionnelle exclusive. Pourquoi je dis ma grande chance? Parce que j'ai toujours eu le grand bonheur de pouvoir chanter avec les personnes que j'aimais bien, avec les personnes avec lesquelles je me sentais à l'aise et vraiment avec lesquelles j'avais envie de créer. Et j'ai eu la grande chance, comme je n'étais pas dépendante financièrement de cette activité-là, eh bien de prendre le temps de créer. J'ai beaucoup créé de spectacles. Avec des comédiens, avec des instrumentistes, avec des graphistes, avec des gens simplement qui m'intéressaient. Donc, ça a été passionnant. Mais comme tu disais tout à l'heure en introduction, c'est très vrai, le chant lyrique est extrêmement exigeant parce que pendant 30 ans, eh bien, tous les jours de ma vie, je me suis imposée de travailler ma voix. Alors, ce mot-là est un peu particulier parce que quand on regarde un chanteur ou une chanteuse de l'extérieur, on pense pas à cette notion de travail de la voix. On voit juste le résultat, en fait. Mais en fait, c'est énormément de travail, énormément d'exigences. Et il y a un moment donné où j'étais très heureuse d'avoir fait ce que j'avais fait, mais je me suis dit, oh, j'ai envie de lâcher cette exigence avec ma voix. Donc voilà, ça fait 2 ans que j'ai arrêté. Et je suis très heureuse d'avoir arrêté.
Je sais que c'est un peu hors sujet, mais ce qui m'intéresse aussi, c'est de savoir quels étaient les spectacles que tu as créés et quel type de spectacle.
Alors, quel type de spectacle j'ai pu créer? J'ai créé des choses extrêmement différentes. Qu'est-ce que je pourrais dire? Alors, par exemple, un spectacle que j'ai mené pendant 10 ans, que j'ai créé vraiment du début jusqu'à la fin, ça s'appelait « Divine gourmandise et élixir du diable ». Alors, comme je suis aussi littéraire, j'adorais créer à la fois à partir de textes, la langue m'a toujours beaucoup, beaucoup intéressée, tu vois, et en même temps, imaginer ce que je pouvais faire avec la musique. Alors ça, c'est un exemple très curieux de spectacle que j'ai pu créer. J'avais une amie qui avait des contacts dans un festival à Roanne. Et puis, un jour, elle m'a appelée, elle m'a dit, écoute, j'ai la possibilité, si tu veux, de placer un spectacle dans ce festival, mais il faut très, très vite, tu as 2 heures pour créer quelque chose. Je me suis dit, OK, en 2 heures, j'ai imaginé, j'ai créé une feuille A4, j'ai envoyé, et le spectacle a été accepté sur une feuille A4. C'est pour répondre à ta question, parce que, en fait, je fonctionne souvent beaucoup comme ça. Je ne vais pas dire à l'impulsion, mais Je fonctionne beaucoup au moment. Pour moi, ce qui est très important, c'est de fonctionner avec le moment présent et dans la relation à l'autre. Donc, il y a toujours une inspiration qui me vient sur le moment. Et à ce moment-là, j'ai comme toute mon énergie qui se concentre sur ce moment présent et je crée. C'est comme ça que je fonctionne. Donc, par exemple, à ce spectacle, Divine Gourmandise et Élixir du Diable, le thème, c'était la nourriture, parce qu'on devait le donner dans des restaurants. C'était ça, le festival. Et j'ai créé un spectacle autour de textes et de chansons du XXe siècle, et puis de morceaux du XVIIIe, ou je ne sais plus ce qu'il y avait, XIXe aussi, autour de la nourriture et de la boisson. Et j'ai proposé à un comédien de s'associer à moi et à ma pianiste. Et on a créé ce spectacle très, très, qui ressemblait à rien. N'empêche que, il nous a suivis pendant 10 ans. Et j'ai eu un bonheur incroyable à le créer, quoi.
Voilà. Quel était ton autre métier, alors? Est-ce que tu as continué à enseigner le français?
Alors, non. En fait, ce qui s'est passé, tu sais, moi, la vie, ça a toujours été comme ça. Ça a toujours été très surprenant et des virages inattendus. Et donc, jusqu'à à peu près, je crois que c'est 27 ans, j'ai enseigné à l'université dans ma spécialité qui était la littérature du 18e. Mais ce qui était étonnant, c'est qu'on m'a proposé d'enseigner la littérature du 18e auprès d'étudiants d'art du spectacle. Donc déjà, tu vois, c'était rigolo, quoi. Déjà, je faisais un pas de côté. Et puis à cette époque-là, je prenais des cours de chant déjà depuis presque 10 ans. Ma professeure de chant, qui était marocaine, à l'époque a souhaité retourner dans son pays, revivre à nouveau dans son pays. Et elle m'a proposé de prendre la suite de ses cours, des cours qu'elle donnait. C'était dans la région de Rennes et elle avait 3 écoles de musique dans lesquelles elle intervenait. Et à ce moment-là, il a fallu que je choisisse. Parce que moi, j'étais dans un chemin qui me conduisait normalement à la thèse de lettres. J'étais en thèse de lettres, donc j'allais vers le doctorat, l'agrégation de lettres, enfin voilà. Et j'allais vers être professeur de littérature à l'université, de telle université de Rennes. Et là, eh bien, c'est le destin, tu sais. Il y a deux routes qui se présentent à toi. Et moi, pour moi, c'est ce que j'appelle l'effet de réel. C'est qu'à un moment donné, je ne sais pas si tu as déjà vécu ça, mais il y a un moment dans la vie où c'est maintenant. Ce n'est pas tout le temps comme ça. Souvent, c'est une continuité. Et puis tout d'un coup, un jour, tu as la notion du maintenant. Et ce maintenant-là, il faut se positionner. Et ce positionnement-là est très important parce qu'il va avoir des incidences, on va dire, sur tout le reste de notre vie. Eh bien, c'était un moment comme ça, quand elle m'a proposé ça. Et dans ce moment-là, j'ai dit, OK, moi, ça fait déjà plusieurs années que j'enseigne à l'université. Je vois que je ne suis pas complètement satisfaite avec ça. J'ai l'impression que les étudiants sont là simplement pour passer des examens. Moi, j'avais envie d'échange, de quelque chose qui pétille et tout. Ça me satisfaisait pas complètement. Et j'ai décidé de tout arrêter pour devenir professeure de chant. Ça n'avait rien à voir. Voilà. Et donc, j'ai mis quand même une année, j'ai suivi les cours de chant avec ma professeure de chant pour vraiment me former auprès d'elle. Et puis, au bout d'un an, j'ai tout arrêté à l'université. J'ai arrêté les cours de français, les cours de littérature, pour me dédier à la voix. Donc, ça a été aussi une façon pour moi de mettre le pied à l'étrier métier de chanteuse. Tu vois, à ce moment-là, je suis devenue chanteuse lyrique professionnelle et professeure de chant. Et puis après, ça a évolué.
Et est-ce que quand tu as décidé de quitter la profession de chanteuse lyrique, oui, est-ce que c'était un autre moment de maintenant?
Un autre moment de maintenant? Oui, je crois. J'ai eu en fait plusieurs moments de maintenant, comme tu dis. Et ce moment-là, oui, ça fait 5 ans que je vis en Belgique, à Bruxelles. Ça, c'était aussi un autre maintenant, au moment où j'ai décidé de partir en Belgique, donc de partir de la France. Et le moment où j'ai décidé d'arrêter le chant, ça faisait déjà 3 ans que j'étais, 2-3 ans que j'étais en Belgique. Et je voyais que c'était plus tellement satisfaisant, parce que quand j'étais en France, je bénéficiais d'un réseau très important parce que ça faisait 25 ans que je chantais, surtout je chantais dans la région de Rennes, la région de Bretagne. Donc j'avais beaucoup de gens autour de moi qui me connaissaient et du coup j'avais forcément des collaborations assez régulières. Quand je suis arrivée en Belgique, j'avais déjà 48 ans. J'avais pas mes réseaux. Et donc, il a fallu que je commence à faire des réseaux, mais c'est pas tout à fait facile à cet âge-là. Généralement, on fait plutôt des réseaux à 25-30 ans dans le domaine de la musique, plus trop vers 50 ans. Alors, j'ai fait quelques petites choses, mais c'était moins satisfaisant pour moi, plus difficile. Et à un moment donné, il s'est passé quelque chose que j'aurais pu prendre comme quelque chose de très difficile, mais finalement que j'ai pris comme une occasion. Je devais créer un spectacle avec un grand ténor de la région. J'étais extrêmement heureuse parce que j'adorais sa voix. Nos deux voix allaient super bien ensemble. On avait un très, très beau projet de concert ensemble autour des mélodies françaises. C'était très, très beau. Et puis, il s'est passé qu'au moment où on aurait dû faire la première, eh bien, lui, qui tournait beaucoup en fait, aussi au niveau européen, a été sollicité pour un concert qui était très, très important pour lui en Hollande, aux Pays-Bas. Et il a dû faire le choix. Il a fait le choix de ce concert-là. Et ce moment-là, ça a été à la fois dur, hein, je ne vais pas te le cacher, ça a été difficile, mais en même temps, il y a eu comme une petite prise de conscience. Je me suis dit, je ne veux pas, en fait, à ce moment-là de ma carrière et de mon chemin, je ne veux plus être dépendante comme ça de choses qui peuvent se passer et qui me cassent dans mon élan. Donc non. Et j'ai dit, mais finalement, est-ce que ce n'est pas le moment d'arrêter ? Et puis, tu sais, il y a quelque chose aussi qui est très important pour moi et que j'ai déjà mis en œuvre sur d'autres choses dans ma vie. Pour moi, c'est très important d'être conscient et consciente du moment qu'on vit et du choix qu'on doit faire. Je n'aime pas que la vie m'impose des choses. Donc, j'ai toujours préféré choisir plutôt que me faire choisir par la vie quelque part. Enfin, j'aime bien qu'on me choisisse, hein, c'est pas le problème, mais plutôt que d'avoir le sentiment que à un moment donné la vie m'impose quelque chose que je n'ai pas choisi au bon moment. Donc là, je me suis dit tiens, j'ai 50 ans et c'est peut-être pas le mauvais moment en fait pour arrêter de chanter, plutôt que de continuer et puis de m'apercevoir à un moment donné, peut-être dans 5 ans, 8 ans, 10 ans, que ma voix commence à aller moins bien et que je vais être obligée d'arrêter. Là, c'est moi qui ai choisi. Donc, ça me va.
Et comment, du coup, aujourd'hui, tu es coach sur les gens qui veulent utiliser la voix pour parler? Et oui. Comment est-ce que tu transposes les techniques de chant à la voix parlée?
C'est très intéressant comme question. Alors, en fait, je n'ai pas commencé à coacher des personnes une fois que j'ai arrêté de chanter. En fait, tu vois, je te disais tout à l'heure qu'au début de ma carrière, j'ai commencé à être professeure de chant et chanteuse. Et puis, petit à petit, je suis devenue consultante, on en parlera peut-être tout à l'heure, formatrice et consultante automatiste et chanteuse. Et puis, petit à petit, je suis devenue coach de la voix et chanteuse. Donc, ça fait déjà 15 ans, en fait, que je suis coach, hein. Après avoir été professeur de chant. Alors, comment je transpose ? C'est une très bonne question parce que, effectivement, c'est la connaissance intime, physique, corporelle, puis après auditive, mais sensorielle, je dirais, de la voix, qui m'a permis d'accompagner les personnes dans leur voix. J'aurais pas conçu autrement cette activité d'accompagnement, de coaching. C'est vraiment pour moi très important, comme c'est quelque chose de très intime, à la fois pour les personnes et pour moi. J'ai besoin d'avoir traversé cette intimité-là avec ma voix pour pouvoir sentir les besoins de la personne que j'accompagne et la façon dont je l'accompagne. Alors, je pourrais te répondre de plein de façons. J'aurais envie de tirer juste un fil. Pour moi, c'est la personne qui m'invite à découvrir les outils qui vont être les plus judicieux pour elle. Ça n'est quelque part jamais moi qui invente. Ou alors je commence juste à mettre en place un petit... Tu vois, c'est comme si je mettais une petite pierre. Je vois un petit peu comment ça, ce que ça donne. Et puis, c'est juste pour introduire, juste pour se donner l'occasion de rentrer en contact. Et puis finalement, très très vite, c'est la personne qui tisse elle-même les fils, évidemment à son insu, par sa présence, par sa façon de respirer, par ce qu'elle me dit, par ce que j'entends dans sa voix. Parce que j'ai une façon d'écouter les voix qui est très, très, je crois, très fine et très ajustée, ce qui fait que quand quelqu'un me parle, j'entends plein de choses dans sa voix. J'entends son corps, j'entends son rapport à sa voix, j'entends ce que la personne retient, ce que la personne envoie, enfin, j'entends plein de choses. Et après, pour être plus précise par rapport à ta question, eh bien, moi, je crois que la voix chantée et le travail sur la voix chantée lyrique demande tellement de connaissances, mais pas seulement de connaissances intellectuelles, mais de connaissances intimes de la voix et d'expériences intimes de la voix, que j'ai beaucoup d'outils pour différents, pour accompagner la voix des personnes. Je dis à chaque fois que c'est comme si j'avais une boîte à outils, je l'ouvre grand et puis j'attends. Et j'attends que la personne me parle et j'attends ce qui va se passer. Et puis là, tiens, il y a un outil, c'est comme si l'outil montait tout seul. Je dis, ah, ça, c'est bien ça. Hop, et je prends mon outil. Mais ce ne sera jamais le même outil en fonction des personnes.
Quels sont les types de problématiques que tes clients pourraient avoir sur la voix?
Alors, c'est très intéressant parce qu'en ce moment, tu sais, j'écris un livre sur la voix des femmes et je me pose à cette question-là, notamment la question de quelles sont les problématiques que les hommes apportent lorsqu'ils viennent pour travailler sur leur voix et quelles sont les problématiques que les femmes amènent. Et je me suis rendu compte que souvent, les personnes venaient avec un malaise avec leur voix, que les femmes souvent me disaient « on ne m'entend pas, on ne m'écoute pas, je n'arrive pas à me faire entendre et c'est très très difficile pour moi, je n'aime pas ma voix hein, ». Toi qui es coach aussi de la voix, tu connais bien ça, hein, j'imagine. « Je n'aime pas ma voix, je ne suis pas bien avec ma voix et j'aimerais tellement trouver ma voix ». Alors évidemment, toi comme moi, on entend aussi voix VOIX et voix VOIE, parce qu'évidemment, travailler sur sa voix, avec cette demande-là, en tout cas par rapport à la voix, on entend aussi tout ce qu'il y a de demandes par rapport à un malaise d'être et de relation et de communication, de représentation, d'exposition, mais aussi de reconnaissance, hein, voilà, tout ça. Donc, c'est tout ça qu'on aborde à travers la voix. Quelles sont les problématiques précises? C'est souvent des personnes qui parlent trop vite. Hein, je te parle là plus sur le plan technique. Hein. Donc, des personnes qui parlent trop vite, avec un débit beaucoup trop rapide. Donc, soit qui ont du mal, du coup, à se faire entendre parce que les personnes n'arrivent pas à les écouter et à être concentrées sur leur voix. Ou alors, ce que ça implique, ça implique des problématiques vocales. C'est-à-dire que lorsqu'on parle trop vite, on se fait mal. Hein. On est essoufflé, on n'arrive plus à respirer. Éventuellement, même on crée des pathologies vocales, donc des nodules, des choses comme ça. Donc ça, le débit. Le contraire du débit, trop rapide. Des personnes qui ont du mal à positionner leur expression de façon à être fluide, qui ont vraiment des problématiques de fluidité. Dans le choix des mots, dans la façon de poser leur voix, etc. Des personnes qui se font mal, beaucoup de personnes qui se font mal avec leur voix. Donc, c'est très près du travail d'un orthophoniste. Hein. Là, moi, ça m'est déjà arrivé même de faire un travail de rééducation vocale pour des personnes qui ont des nodules. Donc, ça, c'est aussi quelque chose que je fais. Et puis, tout simplement, des personnes, notamment des professionnels, qui doivent prendre la parole en public, en réunion, en conférence, en symposium, je ne sais pas, devant beaucoup de monde et qui ont beaucoup de difficultés à avoir une voix audible et une voix surtout qui intéresse, qui capte l'attention. Donc ça aussi, je fais beaucoup ce travail-là. Des personnes qui arrivent en me disant « mais je sais que j'ai une voix complètement monocorde ». qu'on ne m'écoute pas, mais pas parce que je ne dis pas des choses intéressantes, mais parce que c'est terrible, quoi, je le sais bien. Je m'entends bien, j'entends que c'est très ennuyeux ce que je dis. Et apprenez-moi à intéresser les autres. Donc voilà, c'est un petit peu tout ça.
D'accord. Et tout à l'heure, tu as parlé du coaching Tomatis.
Ah oui.
Alors ça, c'est
un autre moment dans ma vie. C'était en 2004. J'étais enceinte de mon fils, qui a maintenant, bientôt 17 ans. Et cette année-là, j'allais accoucher pendant l'été et j'avais l'habitude, tous les ans, normalement, de faire des formations pour moi, pour continuer à me former sur le plan professionnel. Puis cette année-là, je savais que j'allais accoucher, donc je n'allais pas pouvoir faire ça, c'était l'été. Et puis, je crois que j'étais au 8e mois, un truc comme ça, ou presque 9e mois. Je me dis, bon, qu'est-ce que je vais faire? Alors, tiens, si c'était le moment de faire un test d'écoute Tomatis. Qu'est-ce que c'est Tomatis? Tomatis, c'est le nom d'un ORL phoniatre qui a vécu jusqu'à 2001. Donc, tu vois, je ne connais pas exactement sa date de naissance, mais il a vécu en tout cas vraiment au XXe siècle. Et c'est ce médecin ORL phoniatre était le fils d'un chanteur lyrique. Donc, il est français, hein, Tomatis, mais d'origine italienne. Et son père, Umberto Tomatis, était un grand chanteur lyrique qui était très très reconnu sur les scènes d'opéra, et donc il a toujours été baigné dans un bain auditif de chant comme ça. Et quand il est devenu ORL phoniatre, eh bien il a été confronté à deux choses en même temps. D'abord, il a soigné les ouvriers des arsenaux de l'aéronautique qui avaient des problèmes auditifs et qui perdaient donc de l'audition. Et puis par ailleurs, dans son cabinet de phoniatre, eh bien, il y a eu de plus en plus d'amis de son père, chanteurs, qui sont venus le voir parce qu'ils perdaient leur voix. Et en fait, Tomatis a découvert qu'il y avait un rapport entre les deux, que lorsqu'on perdait de l'audition, à l'époque, il disait de l'audition, on perdait aussi la voix. En fait, il a découvert que l'oreille et la voix sont reliées à tel point que il a défini ce qu'on appelait la première règle Tomatis, il a défini ça comme ça, il a dit « la voix ne contient que ce que l'oreille entend ». Ça veut dire que si notre oreille a du mal à viser certains sons, eh bien ça va impacter directement notre voix et notre voix ne pourra pas les émettre. Et c'est un phénomène mais mécanique, inconscient et immédiat. C'est ce qu'il a appelé la boucle audio-vocale. Et après, Alfred Tomatis, à partir de ses découvertes, donc il a nommé trois lois Tomatis qu'il a déposées à l'Académie de médecine et à l'Académie des sciences. Et à partir de ça, dans les années 60, et à partir de ça, il a composé créé ce qu'on a appelé la méthode Tomatis, qui a été une méthode de rééducation de l'oreille et d'éducation à l'écoute, hein, mais vraiment au sens physique du terme, mais aussi psycho-émotionnel, hein, parce que pour lui, l'oreille, ça n'est pas que la fonction auditive, mais c'est aussi tout ce qui est la fonction motrice, la fonction de la concentration, tout ce qui est cognitif, c'est lié au cognitif, à tout ce qui est moteur et à tout ce qui est émotionnel et nerveux. Donc, en fait, ça voulait dire que lorsque on rééduquait en quelque sorte notre écoute, notre façon de viser les sons, eh bien, en même temps, on rééduquait notre voix. Et ça, voilà. Alors, je te résume très brièvement ce que c'est que la méthode Tomatis. Après, il a adapté sa méthode à d'autres secteurs que la voix, hein. Donc, aujourd'hui, c'est très, très utilisé pour les enfants qui ont des difficultés, notamment de langage, les personnes qui ont des difficultés de concentration, d'attention, de mémorisation, et puis toutes les personnes qui ont des problématiques sur le plan nerveux et émotionnel. Et donc, je te fais tout ce petit parcours, je reviens en 2004. Moi, 2004, donc, j'avais déjà lu un livre de Tomatis que j'avais adoré, qui s'appelle « L'oreille et la voix », qui est devenu mon livre de chevet après. Et je me suis dit, oh là là, allez, ça faisait 10 ans que j'aurais voulu faire un bilan d'écoute Tomatis, parce qu'on démarre comme ça. Je dis, allez, j'y vais. Je prends rendez-vous à Paris et je fais mon premier bilan d'écoute Tomatis pour moi. Et là, la consultante Tomatis me dit, ah, et avec ça, vous êtes chanteuse professionnelle. Je te promets, elle a dit ça comme ça. Il y a eu un blanc. Je dis, bah oui, c'est quoi le problème? Le problème, je te la fais courte, mais le problème, c'est qu'en fait, je n'écoutais pas. C'est plus que ça. Je peux dire, je n'entendais pas, je n'entendais rien. Alors, tu vas dire, non, c'est pas possible d'être chanteuse lyrique professionnelle en n'entendant rien, bien sûr. Alors, c'est pas que j'entendais rien physiologiquement. Physiologiquement, mes oreilles allaient parfaitement. Mais je ne me servais pas de mes oreilles pour chanter. Ça voulait dire que je ne me servais pas de mon auto-écoute pour réguler ma voix. Je la régulais seulement sur le plan kinesthésique, parce que je suis très kinesthésique, tu vois, j'arrête pas de bouger, je sais, mais je n'y peux rien, c'est comme ça, parce que moi, c'est en bougeant que je me sens. Donc, j'avais développé une conscience et une connaissance extrême de ma voix par le corps. Alors, j'étais, mais alors, personne ne pouvait me prendre en défaut sur ce plan-là, mais rien du tout au niveau de l'oreille. Qu'est-ce que ça a comme incidence, en fait? Ça a comme incidence que l'oreille, c'est l'outil qui aide le mieux la voix et de façon la plus rapide et la plus ajustée pour, en temps réel, remettre en, tu vois, enfin je disais ajuster, oui c'est ça, ajuster et réajuster le geste vocal à ce qu'on perçoit. Donc en temps réel, à la seconde et au quart de seconde près, l'oreille renseigne le cerveau sur le geste vocal et dit « ok, tac, tac, tac » et réajuste. Et du coup, la voix, hop, change. Mais moi, comme je ne l'utilisais pas, ben, ça allait très lentement. Et ça voulait dire que quand je chantais, j'étais obligée de contrôler ma machine, mais extrêmement, ça créait des tensions musculaires, des tensions vocales, des tensions nerveuses, et ça crée des distorsions parce qu'en fait, je ne pouvais pas tenir tout le temps comme ça. Donc, de temps en temps, j'avais des trucs qui m'échappaient, des trucs... Voilà. Donc, j'ai fait après ce bilan-là, j'ai accouché.
Quand même.
Quand même. Et puis, j'ai fait ce qu'on appelle le parcours d'écoute thématique, c'est-à-dire j'ai fait tout le travail de rééducation de mon oreille et qui m'a changé mais radicalement la vie. J'ai commencé déjà à perdre la voix, c'est-à-dire que pour la première et seule fois de ma vie, 3 jours avant un concert, j'étais aphone, plus rien, plus un son. Parce que tout d'un coup, bah, j'avais une oreille dont je ne savais pas quoi faire. Et donc, bah, mon instrument ne savait plus comment faire. C'est là où on est content d'avoir bien de la technique derrière. J'ai quand même fait mon concert. Et puis après, j'ai appris moi-même à redécouvrir mon instrument avec ce nouvel outil. Et ça m'a tel point fascinée et complètement passionnée que j'ai décidé de me former à la méthode Tomatis, de devenir moi-même consultante Tomatis. Et en 2006, bah, j'ai créé, co-créé avec d'autres personnes, le centre Tomatis de Rennes, dont que j'ai dirigé pendant 14 ans.
Voilà. Wow. Et donc, j'imagine que tout ça, tu utilises aujourd'hui avec tes...
Alors voilà. En fait, ça m'a révolutionné complètement aussi ma façon de me représenter la voix. Parce que jusque-là, moi, je suivais ce qu'on m'avait dit, ce que j'avais appris. Quand on chante, il ne faut surtout pas écouter. Alors, en fait, aujourd'hui, je sais que c'est une aberration, mais je comprends aujourd'hui ce que ça voulait dire. Enfin, j'ai compris après Tomatis ce que ça voulait dire pour les personnes qui me disaient ça. Ça voulait dire, quand on chante, on ne doit pas être en train de surveiller le résultat de notre voix à l'extérieur. Donc, en ce sens-là, c'est vrai, on ne doit pas écouter. Mais en fait, on ne peut pas faire autrement qu'écouter. Parce que notre oreille, tu vois, il n'y a pas de paupières dessus. Donc, quand je ne veux pas te voir, je ferme mes paupières, je ne te vois plus. Mais quand je ne veux plus t'écouter, ou quand je veux, tu vois, je fais « Ah !» Je ne peux pas faire autrement que de m'écouter, d'entendre, tu vois, parce que mon oreille, elle entend et elle écoute. Donc, avec Tomatis, ce que ça m'a permis de comprendre, c'est que on pouvait décider de son écoute. On pouvait décider où on positionnait son écoute. Et par exemple, un chanteur doit apprendre à s'écouter de l'intérieur. Mais on ne peut pas ne pas écouter. Donc, effectivement, ça a révolutionné mon regard sur la voix et ça a bien sûr révolutionné la façon dont j'ai accompagné les personnes. Et ça a donné lieu à mon premier livre que j'ai appelé « La voix de son être », qui était à la fois le fruit donc j'ai fait sortir en 2017, hein, que j'ai fait paraître en 2017, et qui est à la fois le fruit de tout mon parcours corporel avec la voix, et puis de toute cette découverte de l'oreille. Et c'est, si tu veux, c'est comme si j'avais, il manquait une pièce du puzzle. Et c'est ce qui est très intéressant, c'est que pour Tomatis, la boucle audio-vocale, ça n'est pas que la voix et l'oreille. Les orthophonistes, par exemple, ne parlent pas de boucle audio-vocale, mais de boucle audiophonatoire. Donc, c'est vraiment la voix et l'oreille. Mais Tomatis, il a rajouté un troisième élément, c'est le corps. Donc, bah, moi, avec l'oreille, j'ai complété ma boucle audio-vocale. J'ai eu mes trois éléments. Et il dit, lui, que quand on a les trois, bien, en fait, ça tourne. C'est-à-dire que quand on modifie un de ces trois éléments, ça modifie instantanément et mécaniquement les deux autres. Et c'est ça aujourd'hui que j'apprends aux personnes que j'accompagne. Je leur apprends à utiliser les trois en même temps.
Mmh, c'est pour moi qui est modeste chanteuse amateur, ça, c'est absolument fascinant d'apprendre ça.
En fait, ce dont je me suis aperçue, tu sais, c'est qu'il y avait très peu de personnes qui, y compris dans le domaine de la voix, hein, c'est-à-dire aussi bien des professeurs de chant que des chanteurs, y compris des chanteurs et des chanteuses professionnelles, qui n'ont absolument pas l'idée de qu'il faut utiliser son oreille. Et ils ne savent pas comment utiliser leur oreille. C'est très étonnant à chaque fois pour moi, parce que c'est devenu depuis maintenant, tu vois, depuis 2006, quoi, que je suis formée. Donc, ça fait 15 ans, quoi. C'est devenu tellement une seconde nature. À chaque fois, je suis fascinée de voir des personnes qui, en fait, c'est comme si c'était une absence, l'oreille.
Et parle-moi de livre sur lequel tu travailles, sur la voix des femmes.
Oui, alors ça, c'est mon dernier petit bébé. Donc, j'ai d'abord écrit un livre sur donc, la voix de son être, hein, qui était une réflexion sur qu'est-ce que c'est que notre vraie voix. Donc, c'est comme si je partais un peu en quête de ce que beaucoup de personnes me demandent. Ils me disent, mais je voudrais connaître ma vraie voix. Ça, c'était mon premier livre. Ensuite, l'année dernière, j'ai fait paraître un roman. C'était vraiment très, très, très excitant pour moi de faire quelque chose de complètement différent. Et puis là, ça fait déjà quelques années que je m'intéresse, même je me passionne pour la voix des femmes. Et que je lis beaucoup, beaucoup sur cette question-là. Et que je projette vraiment ce livre. Et la question que je me pose et qui se pose à moi à chaque fois que j'entends une femme ou que j'entends ou que je vois des personnes écouter la voix des femmes, c'est notre écoute. Comment écoutons-nous les femmes? Mais pas comment écoutons-nous leurs paroles, parce que ça. Ça a déjà été beaucoup, et c'est beaucoup, beaucoup,
commenté.
Voilà, et commenté, exactement. Mais par contre, ce qui ne l'est pas du tout, c'est comment on écoute et on entend la voix des femmes. Et pourquoi je me suis intéressée à ça? Parce qu'en fait, moi-même, je me suis rendu compte, il n'y a pas très longtemps, il y a quelques années, que pendant, quasiment toute ma vie d'adulte, j'avais transformé ma voix, notamment ma voix parlée. En fait, j'avais aggravé ma voix. Je me suis rendu compte de ça, justement, après avoir arrêté de chanter. Après avoir arrêté de chanter. Parce que quand j'ai arrêté de chanter, bah, j'ai arrêté de faire de ma voix un objet d'étude, tu vois, et de travail. Du coup, je l'ai laissé, peut-être, je lui ai foutu un peu la paix. Et là, je me suis rendu compte qu'en fait, ben, je sais pas, il y avait autre chose qui arrivait dans ma voix, notamment un peu plus d'aigu. Un peu plus
tu es soprano ?
Soprano.
Soprano.
Ouais. Soprano. Mais en même temps, j'avais la particularité dans ma voix chantée d'avoir une étendue vocale très importante. Tu vois, j'ai chanté beaucoup de musique contemporaine, de répertoire contemporain, et notamment j'ai chanté du Xenakis, qui est vraiment un répertoire extrêmement difficile, avec une étendue vocale qui allait de l'alto au soprano lyrique et même soprano coloratour. Et le chef d'orchestre avait prévu de prendre deux chanteurs pour faire ça, deux chanteuses, et en fait, il m'a pris moi. Ce qui veut dire que vraiment, j'avais une étendue vocale et une capacité à la fois à aller dans les mezzos et à la fois à aller dans les très grands aigus, mais en étant une soprano plutôt lyrique.
Donc, c'est étonnant que ta voix chantée était soprano et ta voix parlée, tu le baissais.
Alors, justement, c'est justement pour ça. En fait, je me suis rendu compte que Je l'avais aggravé, mais je l'ai aggravé très tôt, vers 20-21 ans, en arrivant, je dirais, à l'âge adulte. Parce que je me suis rendu compte que pour moi, quand j'arrivais à cet âge-là, vers 20-21 ans, les aigus de la voix, et notamment les aigus de la voix des femmes, manquaient terriblement de légitimité et de crédibilité. Je n'aimais pas la voix des femmes à cette époque-là, mais vraiment, ça me hérissait. Je crois que, sans être consciente du tout hein, de ce que j'entendais et ma façon d'écouter, eh bien, j'avais une façon d'écouter qui masquait les aigus des femmes. Ça me mettait insupportable. Et du coup, ça confirme ce que dit Tomatis, hein, que l'oreille donne la voix. Comme je ne supportais pas les aigus, j'ai aggravé extrêmement ma voix. Ça me donnait l'impression d'être légitime. Parce que quand j'avais des graves dans ma voix, alors je crois que j'avais l'impression quelque part d'être un peu un homme. Et il y avait, pour moi, à cette époque-là en tout cas, que les hommes qui étaient pris au sérieux, qui étaient légitimes, qui étaient crédibles et qu'on écoutait. Donc, il n'y avait que les graves qui valaient le coup, tu vois.
Et aujourd'hui, on en est où sur cette question-là?
Alors, voilà, je crois que ça évolue énormément. Alors, depuis pas très longtemps, hein. Et c'est justement ça, hein, pourquoi je te racontais cette histoire-là, parce que c'est ça qui m'a fait réaliser, et un livre aussi que j'ai lu d'une Anglaise, tu dois connaître, son prénom m'échappe, Bear, elle s'appelle comme le... ça s'appelle Le pouvoir de la voix des femmes. Non, ça ne te dit rien. Mary Baird. Et vraiment, alors là, ce livre-là m'a vraiment créé comme une espèce de prise de conscience, parce qu'elle racontait vraiment dans l'histoire, et notamment dans l'histoire grecque, comment, et puis depuis l'histoire grecque, et puis elle faisait tout le panorama jusqu'au XXe siècle, comment finalement... Eh bien, on dévalorisait les voix des femmes et les aigus des femmes, et comment les femmes, quand elles voulaient compter, et notamment dans le domaine du pouvoir, il fallait qu'elles changent leur voix. Hein. Alors, où on en est aujourd'hui, je crois que ça change, mais pas partout, pas tout le temps, et pas pour tout le monde. Tu vois, je pense que ça change notamment pour les femmes qui, elles-mêmes, ont acquis une certaine conscience, une certaine confiance en elles, une certaine légitimité par leur expertise, par leurs compétences, par leurs fonctions. Et que là, on peut tolérer à ce moment-là, tu vois, un petit peu n'importe quelle voix. Malgré tout, moi, je constate, par exemple, que les féministes, les voix des féministes, les voix de toutes les personnes LGBTQI+, plus, hein, et notamment les voix, je pense à Alice Coffin qui a écrit un livre dernièrement qui est absolument passionnant, qui s'appelle « Le génie lesbien », eh bien, des voix comme ça qui sont pas du tout des voix habituelles et qui sont des voix qui revendiquent un peu, tu vois, qui ont de la verve, et qui sont pas des voix sages, des voix de femmes qui se mettent en colère, des voix des femmes qui revendiquent, eh bien, c'est encore assez insupportable pour notre oreille. Mmh. On aime bien les voix des femmes qui sont un peu sages, un peu rangées, un peu posées. Alors là, on dit « Ah, j'adore ta voix parce que c'est une voix posée. » Alors, c'est chouette, hein, c'est bien. Mais moi, je me pose la question. Et si ma voix, à un moment donné, n'est plus posée, est-ce qu'on supporte encore ma voix? Est-ce que c'est encore une voix de femme? Est-ce qu'on accueille encore ma voix? Eh bien, c'est cette question-là, tu vois, que je me pose. Et comment les femmes aussi prennent la parole, mais avec leur voix, c'est-à-dire qu'est-ce qu'elles font de leur voix dans une société où on leur demande finalement d'avoir une voix assez bien, bien cadrée, bien rangée. Et je me pose la question de l'influence qu'a notre écoute collective sur la façon dont les femmes utilisent leur voix. Donc, c'est cette question-là que j'interroge. Et alors, en ce moment, simplement pour terminer, juste pour te confier ça, parce que j'adore ce que je fais en ce moment. Pour ce livre-là, donc, j'interviewe des femmes. Hein, t'en sais quelque chose, puisque je suis venue t'interviewer. Et alors, ça me passionne. Parce que j'interviewe des femmes, soit qui ont un lien, professionnel avec la voix, soit qui représentent par leur fonction un usage un peu spécifique de leur voix. Et alors, elle me confie des choses, mais waouh, mais juste waouh. Et ça me donne une pêche incroyable.
Et si on veut te retrouver soit pour faire du coaching avec toi, soit parce qu'on a quelque chose à dire sur la voix des femmes, où est-ce qu'on peut te retrouver?
Alors, on peut me retrouver sur LinkedIn déjà, où je suis assez active. Je rencontre beaucoup de gens comme ça. Et puis, on peut aller sur mon site. Alors, en ce moment, il est en train d'être fait. Mais bon, on peut me trouver sur mon site aussi. Il y a une petite page contact. Et bien sûr, avec grand plaisir. Voilà, avec grand plaisir.
Et tu arrives à travailler pendant le confinement?
Alors, un peu différemment, un peu moins. Et c'est d'ailleurs pour ça que finalement, j'ai transformé cette contrainte en opportunité. Comme toutes les formations que je fais d'habitude en entreprise sont reportées, notamment les formations qui doivent se faire vraiment en présentiel, j'ai plus de temps. Et donc, j'ai dit, allez, on y va. Donc, tout ce temps-là, je le consacre à mon livre. Et c'est un grand bonheur d'avoir plus de temps pour m'y consacrer.
J'ai deux questions pour finir. La première, c'est quelle est la chose la plus courageuse que tu as jamais fait? Jamais faite, d'ailleurs.
Eh bien, je crois... alors, tu me dis une chose, je peux en dire deux?
Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr.
Parce qu'en fait, elles ont un lien. Je crois que c'est ce dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est-à-dire le moment où j'ai décidé de basculer de la littérature à la voix, parce que ce n'était pas du tout évident, y compris par rapport à ma famille, qui m'aidait financièrement dans mes études. Ça faisait déjà des années que j'étais dans la littérature. Et puis, j'ai choisi ce basculement dans la voix. Et ça, c'est, je crois... je suis assez fière de moi à ce niveau-là parce que c'était quand même une prise de risque. Et l'autre chose qui a un rapport, c'est quand j'ai décidé de venir en Belgique. Je suis venue en Belgique par amour pour rejoindre l'homme de ma vie qui est devenu mon mari.
Félicitations.
Merci. Et en fait, je crois que ça, c'est quand même un acte courageux parce que j'avais mon centre de formation en France, j'avais toute ma vie en France et puis j'ai tout arrêté. J'ai emmené mon fils qui avait à l'époque 11 ans et puis j'ai tout recommencé en Belgique. Alors, c'est pas tout à fait vrai parce que je continue à travailler en France. Mais quand même, ça a été un basculement très important. En même temps, je regrette pas du tout parce que ça m'a ouvert beaucoup, beaucoup de choses, beaucoup de portes.
Et ma dernière question, c'est est-ce que pour toi d'être une femme, est-ce qu'il y a des moments où c'était compliqué, où c'était bien? Quel était l'impact sur ta vie d'être une femme?
Ça, c'est une sacrée question. Je crois que quand je suis rentrée dans ma carrière au début, je n'aimais pas du tout être une femme. Et c'est pour ça que j'ai aggravé ma voix. Je crois que j'aurais préféré être un homme. Je crois que je le vivais comme quelque chose de compliqué, de pas très valorisant. Après, j'en ai fait quelque chose et je crois que j'ai découvert, mais vraiment ça m'a pris beaucoup, beaucoup de temps, de découvrir ce que c'était qu'être une femme, mais qu'être dans le bonheur, tu vois, d'être une femme. Aujourd'hui, je vis vraiment le bonheur d'être une femme. Et en même temps, quand j'ai commencé à lire beaucoup sur la question des femmes pour mon livre, je lis énormément sur toutes les questions qui se traitent et qui arrivent aujourd'hui, le féminisme, tout ça. Je crois que ça m'a pris au moins une année, avant de pouvoir quitter la colère. Tu vois, ça fait émerger en moi une très grande colère sur la façon dont les femmes étaient traitées dans le monde et sur tout ce qui restait encore à faire, même dans notre société française. Et j'étais, pendant longtemps, ça m'a attristée, terriblement attristée. Et aujourd'hui, avec tout ce que les femmes font, tout ce que les femmes entreprennent, et avec cette sororité qui explose partout, mais quel bonheur, quoi. Alors là, je suis ravie d'être une femme en ce moment, mais vraiment.
Aline, ce qui me frappe en te parlant, c'est Déjà, la profondeur de tes recherches et la profondeur de ce que tu fais. Donc, c'est absolument pas, bon, je me lance, j'ai deux, trois petites idées, je me lance en tant que coach. Non, c'est vraiment, tu as toute la profondeur de toute ta profession. Et ce qui me frappe aussi, c'est la profondeur aussi de toutes tes recherches. Et l'autre chose qui me frappe, c'est comment tu combines, en fait, le métier que tu as quitté avec ton métier que tu as poursuivi. Donc, finalement, tu utilises le français dans le fait d'écrire et tu as écrit un roman et que finalement, il y a tout toi qui vient dans ta vie de la femme de la cinquantaine que tu es.
Oui, c'est très juste. Je te remercie vraiment de cette remarque parce que je crois que c'est très juste. J'ai toujours aussi dans mes coachings tenu à amener la littérature. Je fais beaucoup lire, par exemple, le monologue de Phèdre. Je le vis, je rougis, je pâlis à sa vue. J'adore ça, j'adore les mots, j'adore la langue. Et je crois qu'aujourd'hui, c'est peut-être ça qui fait que je me sens vraiment complètement moi et peut-être que je peux apporter du coup quelque chose d'un peu différent à travers le travail sur la voix. Parce que je crois qu'effectivement, comme tu dis très justement, j'ai toutes les parties de moi, de ce que je suis, qui se rassemblent. Merci de nommer ça. Vraiment, ça me fait très plaisir.
Et j'aurais hâte de lire ton livre quand il sort et de lire le livre que tu as déjà écrit. Donc, merci beaucoup pour ton temps. C'était vraiment un grand plaisir pour moi d'apprendre tout ça sur toi. Merci.
Un grand merci à toi, Cécilia.
J'espère que cet épisode de Brave New Women vous a bien plu. Si vous êtes une femme, parfois vous manquez un peu de confiance en vous ou vous souhaitez avoir plus d'impact, s'il vous plaît, n'hésitez pas à me contacter. Vous pouvez me retrouver sur LinkedIn, sur la page Facebook de Brave New Women ou sur mon site web. Merci pour votre écoute.